Nous avons le grand plaisir d'accueillir Sophie Vaniche. Sophie Vaniche donc, est historienne, directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur deux champs principaux. La Révolution française, c'est une des références majeures actuellement sur le fait historique de la Révolution française. Et puis également, elle s'intéresse au temps présent, comme disent les historiens. Sophie Vaniche, tout en étant chercheuse d'un côté, considère que l'historienne doit s'engager dans un agir dans la société, un agir peut-être même révolutionnaire. Du moins, considère-t-elle que la Révolution française revêt tout particulièrement aujourd'hui dans notre monde bouleversé une actualité. Elle est porteuse d'enjeux qui sont à nouveau sans doute à l'ordre du jour dans notre monde contemporain. Je rappellerai simplement qu'elle a publié beaucoup d'ouvrages qui font référence, en particulier donc, l'intelligence politique de la Révolution française qui a été rééditée en 2013 aux éditions textuelles. Également, je citerai l'impossible citoyen, l'étranger dans le discours de la Révolution française qui a fait l'objet d'une réédition chez Albin Michel en 2010. Sophie Vaniche collabore aussi beaucoup à des travaux et des publications collectives, et en particulier, elle est engagée dans la revue Vacarme. Elle a choisi d'intituler son intervention présente « L'hospitalité révolutionnaire, enjeu d'un lien asymétrique ». Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Et puisqu'il s'agit d'hospitalité, je voudrais commencer par remercier pour celle qui nous est faite, remercier le banquet, le marque-page, remercier Dominique Bondu qui m'a proposé d'intervenir aujourd'hui et qui a donné dans ce programme une place importante à la question révolutionnaire. Remercier encore Patrick Boucheron qui ouvre la voie dans ces lieux au discours de l'histoire. Mais cette fois, si je vais interroger la Révolution française, c'est moins pour ouvrir un chemin qui s'offre ou qui s'offrirait, mais pour interroger une butée à la manière dont Nicole Laureau pouvait parler des problèmes grecs de notre démocratie. Et j'aimerais à mon tour parler des problèmes révolutionnaires de notre République. Les problèmes révolutionnaires de notre République, c'est interroger ce qu'elle appelait l'histoire du répétitif, de ce qui se répète dans l'histoire, d'analogie en analogie, pas nécessairement parce qu'il y a des généalogies, mais parce qu'il y a quelque chose qui appartiendrait à ce qu'elle appelle un temps non vectorisé de l'histoire, un temps qui n'avance pas, qui produit des nappes immobiles du temps et qui fait que quelque chose se répète indéfiniment de période historique à période historique. Ces choses qui se répètent, elles viennent bien sûr se lever dans le discours, dans les mots, dans les phrases. Et c'est donc en analysant des mots et des phrases que j'essaierai de repérer dans les plis du discours ce hors-temps. Les plis du discours, dans un dialogue que j'essaierai de faire entre un passé, celui des révolutionnaires, et notre présent, celui de notre actualité, celui de la question, bien sûr, des migrants, des réfugiés, de la cosmopolitique qu'on a déjà entendue un peu en ces lieux et qui mérite d'être revisitée sur ce mode des rapports passé-présent et des plis de l'histoire. L'hospitalité révolutionnaire, enjeu d'un lien asymétrique. Et c'est bien l'asymétrie, effectivement, qui pose question et qui mérite d'être analysée. Je voudrais, pour pouvoir effectivement vous parler de cette hospitalité, présenter d'abord un objet qui est un objet tout à fait singulier, en tout cas un objet qui m'avait alerté, et qui est un petit ruban tricolore. Ruban tricolore qui, bien sûr, s'offre au regard et qui interroge la manière dont interfère ou n'interfère pas dans les relations avec autrui, la logique du regard et la logique des liens, en particulier en 1793. Le 3 août 1793, Garnier de Sainte présente un projet de loi sur les étrangers. L'article 7 fait résonner dans l'enceinte de la Convention l'énoncé suivant. Les étrangers qui obtiendront un certificat d'hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore sur lequel sera marqué le mot « hospitalité » et le nom de la nation dans laquelle ils sont nés. Cette logique de la visibilisation de l'hôte admis à l'hospitalité de la France apparaît au moment où l'étranger devient un suspect. Dans tous les cas, l'article 8 vient le confirmer si on pouvait en douter. Il précise que les étrangers ne pourront en aucun temps quitter cette marque indicative ni marcher sans leur certificat d'hospitalité. Et dans le cas où ils auraient enfreint l'une ou l'autre de ces dispositions, ils seront déportés comme suspects. En effet, un temps spécifique s'ouvre, un temps de surveillance politique des étrangers, depuis mars 1793. Un trajet débute avec un décret d'expulsion des étrangers qui ne seraient pas garantis, c'est-à-dire qui ne seraient pas, dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, avoués par plusieurs citoyens qui garantiraient effectivement leur présence et leur qualité de personnes acceptables. Dans ce moment de mars 1793, se crée une institution particulière qui s'appelle le Comité de surveillance des étrangers. Comité de surveillance des étrangers qui va ensuite s'appeler Comité de surveillance révolutionnaire. Ce trajet s'ouvre ainsi en mars 1793 et pourrait se refermer le 6 septembre lorsque cette loi que j'ai évoquée sur les étrangers est enfin écrite et votée. Elle n'avait été votée qu'en principe le 3 août 1993 et connaît donc une rédaction définitive. Ceux qui sont nés dans un pays en guerre avec la France révolutionnaire, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, avaient alors été mis en prison. Ceux qui nés dans ces mêmes pays, mais avaient donné des preuves de civisme, étaient malgré tout tenus de sortir du territoire sous les 8 jours. Ceux qui étaient jugés dignes de rester et donc nés dans un pays n'appartenant pas à la coalition en guerre contre la France ou domiciliés depuis longtemps en France ou encore vraiment avoués, garantis, pouvaient effectivement rester. Les artistes, artisans et ouvriers étaient exceptés de cette loi mais devaient eux aussi être avoués. Si la mise en équivalence de l'étranger et du suspect n'a cessé d'être au cœur du débat, la rédaction définitive du décret efface la proposition de ruban tricolore, mais maintient la nécessité des certificats d'hospitalité. L'hospitalité donc inconditionnelle, qui avait été présentée depuis 1789-1790 comme l'emblème spécifique de la Révolution française, semble désormais suspendue. Il y aura des conditions pour être admis à l'hospitalité. Et ces conditions seront à décrire avec précision. Ce ruban tricolore de l'imaginaire de l'été 1793, pour rendre visibles des étrangers qui n'auront ni été mis en prison, ni ramenés à la frontière, avait provoqué plus que du trouble dans mon travail, travail de récollection d'archives. Une sorte d'effondrement. J'avais décidé d'aborder une question d'actualité sur une période a priori placée dans mon imaginaire au-dessus de tout soupçon. L'étranger de la Fédération de 1790 à Thermidor, je pensais être sur un versant de l'histoire rassurant. Je cherchais un monument, quelque chose qui fasse mémoire et qui, face à un présent furieux, devait offrir des outils pour refonder l'accueil de l'étranger. Car en France, le passé sur cette question de l'accueil de l'étranger et de l'hospitalité, dans son épaisseur historique, est à l'évidence ambivalent et inquiétant. C'est à la fois, bien sûr, celui de la France des droits de l'homme et du citoyen, de la France du droit d'asile, France terre d'asile, mais aussi celui de la France xénophobe, celle qui attaque les métèques, fiche les étrangers, invente le juif marat, et celle qui collabore de 1940 à 1944. C'est pour faire face à cette inquiétude que j'avais d'ailleurs décidé de travailler sur l'étranger dans la période révolutionnaire, au moment où la montée en puissance du Front National ne semblait plus rencontrer d'obstacles symboliques et pratiques. Aujourd'hui, ce parti est en passe de devenir la première puissance politique française capable non seulement de rassembler des voix, mais surtout de faire hégémonie culturelle sur la notion non seulement d'identité nationale, mais aujourd'hui d'identité occidentale en danger. L'autre, le quasi-autre, l'étranger, sont les premiers dangers désignés. L'autre, le quasi-autre, l'étranger, sont aujourd'hui dans ce pays en danger. Or, loin d'être rassurante, la recherche avait d'abord creusé l'inquiétude. Le passé d'exclusion de l'étranger était bien inscrit au cœur de l'épisode révolutionnaire. L'hospitalité avait, en 1793, été mise en crise. Enfin, certains conventionnels avaient proposé de faire d'un signe valorisé et valorisant les trois couleurs, un signe ambivalent, qualifiant et disqualifiant, avant de l'abandonner sans doute comme mal approprié. Or, ce signe posé sur le corps, ce brassard tricolore, ce ruban tricolore, était devenu pour moi un signe de deuil. Brassard noir pour mon ambition monumentale dont je parlais tout à l'heure. Et sur ce ruban tricolore vendu par les colporteurs venait se surajouter, d'une manière difficilement répressible, le signe porté par mes aïeux, bout d'étoffe jaune, étoile de David, identificatrice et discriminante. Je me retrouvais dans cette situation où la découpe de mon objet me confrontait au trouble de la vision. Trouble de la vision de l'historien qui ne peut plus séparer ses investissements subjectifs, les enjeux d'un projet de savoir politique et l'archive comme butée de la réalité du passé. C'est aussi ce qu'il me faudrait penser. J'étais convaincue à l'orée de ce travail qu'un historien qui travaille sur la question de l'étranger est en charge non seulement de décrire et comprendre le passé, mais bien de comprendre son monde contemporain, dans l'épaisseur temporelle feuilletée qui le constitue. Comme le disait Guillardreau dans les dialogues avec Georges Duby, le travail de l'historien consisterait alors, je le cite, à inventer de façon rigoureuse un passé par lequel, précisément, le présent se présente. Mais cela allait plus loin. Il faudrait savoir quelle place faire au trouble, puisque si je pouvais me donner pour tâche d'être un bon porte-parole du présent, face à l'état de la recherche et face aux matériaux, mon désir propre d'historienne, qui avait trouvé à s'y lever, avait surgi comme trouble, d'une manière intempestive. Il ne faudrait ni nier le trouble, ni lui donner le dernier mot. Alors seulement, la recherche pourrait s'accomplir comme telle, comprendre ce qui s'était joué pendant la Révolution française autour de l'inclusion et de l'exclusion de l'étranger entre hospitalité et inhospitalité. Je voudrais, avant d'aller plus avant sur la question asymétrique, revenir sur ce qui peut opposer la logique des signes et la logique des liens dans l'art d'identifier l'étranger admis à l'hospitalité, apparu au mois d'août 1793 et disparu au mois de septembre. Ce signe des trois couleurs, dans cet usage, n'était pas apparu en fait en août 1793. Il était apparu une première fois dans l'histoire des étrangers en France révolutionnaire sous la forme d'une cocarde qui avait été accordée aux étrangers déserteurs des armées ennemies accueillis dans les légions françaises le 29 avril 1792, moins de 10 jours après la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, empereur d'Autriche. Je cite « Ces déserteurs seront accueillis avec amitié et fraternité et recevront d'abord comme signe d'adoption la cocarde tricolore. Les trois couleurs étaient offertes comme signe d'adoption pour tous ceux qui recherchaient en France asile et protection. Protection des lois, tous ceux qu'on pouvait déjà considérer comme des réfugiés d'une guerre entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Le 1er mai 1792, le législateur Charles Duval avait affirmé que c'était, je le cite, « au moment où les peuples étaient tenus par les rois en état de révolte contre la liberté, qu'il fallait leur prouver que nous sommes leurs amis et leurs frères, que partout chez eux comme chez nous, ils auront toujours de nous secours et consolation. » Et Charles Duval développe alors une conception de la loi nationale comme garantie de l'affection fraternelle qui doit lier tous les peuples. Les trois couleurs sont donc le signe de cette fraternité universelle, sous couvert de lois nationales. Sous couvert, en fait, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'hospitalité est ainsi une pratique qui est conséquence de cette fraternité, fondée par la reconnaissance de cette loi, certes nationale, mais qui s'est donnée comme visée la fondation de l'humanisation des rapports sociaux et politiques par la norme universelle du droit, valable partout et en tout temps, au moins comme devoir être. Une loi à la fois nationale et universelle. En août 1793, c'est bien cette fraternité universelle et illimitée qui semble ne plus pouvoir se maintenir dans la configuration de guerre où toute l'Europe coalisée affronte la France révolutionnaire. Mais pour autant, ce ne sont pas les seules circonstances qui permettent d'expliquer ce changement de politique de l'hospitalité. Gardons cela en réserve. Si les trois couleurs disparaissent en septembre 1993, c'est que ce changement de politique s'est sans doute éclairci. L'hospitalité conditionnelle, non seulement n'a pas besoin de trois couleurs, mais pourrait s'en méfier. Car un ruban tricolore, comme sauf-conduit, pourrait être falsifiable et produire la confiance là où, en fait, la surveillance défiante est désormais le seul acte révolutionnaire à l'encontre de quiconque, comité de surveillance révolutionnaire. Comme l'explique bien l'historien Jérémy Foa quand il travaille sur la guerre civile religieuse du XVIe siècle, en guerre civile, les signes sont falsifiables et chaque signe doit donc être défamiliarisé si l'on veut sauver sa vie. Cette recherche des déguisements est quelque chose d'extrêmement important et devient, pour Couthon, dont on a entendu parler tout à l'heure avec Patrick, le même Couthon qui ne souhaite pas qu'on cesse de voir les fous enchaînés, affirme en Niveaux en deux que cette capacité à déjouer les masques est devenue une compétence nécessaire aux bons citoyens. Je le cite. Dans les révolutions, tous les bons citoyens doivent être physionomistes. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont une mine patibulaire, les yeux hagards, un costume évidemment déguisé, sont de mauvais citoyens que tout vrai républicain a le droit d'arrêter sur le champ. On est là dans l'histoire, qui est l'histoire des chausse-trappes héritées de la cour, où il s'agissait effectivement de fabriquer des masques de manière à ne pas tomber soi-même dans les pièges tendus par la faction adverse. Et il s'agit bien ici d'un contexte qu'on a appelé de lutte des factions. C'est pourquoi la logique des signes apposés ne tient pas face à la logique des liens qui seule peut récuser la suspicion. Pour obtenir un certificat d'hospitalité, c'est pourquoi il faut être avoué, c'est-à-dire reconnu comme bonne personne par plusieurs citoyens, eux-mêmes reconnus comme bons citoyens, bons patriotes. Le bon étranger est donc celui qui ne l'est plus au sens classique du terme, c'est-à-dire pas encore connu, pas encore inclus dans les liens sociaux et politiques. Et il lui est donc demandé, pourtant, de se faire connaître en se faisant répertorier, puis de se faire avouer pour bénéficier d'un statut qui exprime de fait une intégration en tant qu'hôte loyal, bon employé, bon père, bon époux, ami sincère, ami de la Révolution, être civique. C'est de fait toute une série de personnes qui sont sollicitées pour répondre de l'étranger dans une logique du face-à-face circonscrite à des situations qualifiées. Dans cette fonction de témoin, on voit apparaître en premier lieu l'employeur de l'étranger. Il est directement sollicité par un arrêté pris à Colmar par les représentants en mission Guillardin et Lacoste, le 19 août 1793, donc avant même que la loi ait connu sa rédaction définitive. Je cite, « Les chefs de fabrique et manufacture, directeurs d'atelier, gardes-magasins, administrateurs ou régisseurs d'établissements, ou les maîtres qui les emploient, si toutefois ces répondants sont connus dans leur municipalité comme de bons citoyens, répondront des étrangers employés. Ici, il faut faire une petite pause, car c'est beaucoup de monde qui effectivement est au travail et qui sera avoué par des employeurs et qui sera donc effectivement de fait excepté de cette loi sur les étrangers. Autrement dit, quelqu'un qui travaille dans les lieux de la France révolutionnaire n'est pas vraiment un étranger. Les étrangers visés sont le plus souvent ce qu'on appelle les oisifs, ceux qui ne travaillent pas. Ça ne justifie rien, mais c'est un point important à entendre. Donc, d'une manière générale, l'article 2 a excepté de l'emprisonnement les gens qui travaillent. On trouve ensuite, d'une manière, je dirais, plus classique, en tout cas plus classique apparemment, ordinaire, les figures de conjoints, les figures de voisins, amis, ceux avec qui l'on partage le quotidien, éventuellement la vie politique de la section ou de la société populaire. Et donc il y a effectivement toute une sociabilité politique qui va permettre de trouver des garants pour les étrangers qui donc participaient à ces sociétés politiques, étaient inclus dans la vie politique française en tant qu'elle est un espace public de délibération. Mais dans ce contexte plus qu'ambigu, dans le cadre des comités de surveillance des étrangers puis des comités de surveillance révolutionnaire, eh bien les membres des comités de surveillance peuvent désavouer les témoins. Et donc on a quelque chose qui produit un chaînage complexe, intriqué, et ils peuvent eux-mêmes fournir des contre-témoignages. Ce qui fait que la municipalité est dépendante du comité de surveillance lorsqu'elle délivre les certificats d'hospitalité, puisqu'il faut avoir obtenu un certificat de civisme du comité de surveillance révolutionnaire auparavant. Les différentes institutions de surveillance et de contrôle révolutionnaire se font concurrence. Et l'on peut voir parfois ces institutions être instrumentalisées pour régler de vieilles querelles. Appartenant au même espace social de relations que les personnes auxquelles ils délivrent des papiers d'identité, car un certificat d'hospitalité est un papier d'identité. On a beaucoup parlé des passeports, mais on voit bien que ce certificat d'hospitalité est une sorte de passeport interne. Eh bien, ces papiers d'identité, les membres des comités de surveillance, pour les délivrer, sont à la fois juges et parties, pour qualifier, disqualifier tout un chacun. Le contrôle politique et social s'avère donc extrêmement contraignant. Dans cette période où un mauvais vent conduit à l'institutionnalisation des identités et conduit également à une perception directe de l'autre, un face-à-face devenu institution et non plus processus de régulation. Après la mise en forme de l'identité de papier, le certificat d'hospitalité, cette épreuve du face-à-face, peut être redoublé par la publicité de certains des résultats de l'enquête. Et on assiste à la mise en place de listes d'étrangers admis à l'hospitalité qui doit être affichée dans les salles de débat de la maison commune. L'hospitalité est bien alors devenue une relation rare, voire parcimonieuse, et parfaitement asymétrique. L'autre reçu n'est absolument pas protégé par des lois, mais dépend complètement de son réseau social. Incise 1. Être aujourd'hui sans papier suppose, pour obtenir des papiers, un réseau social fort. Au moment de l'arrivée, il faut quelqu'un qui, souvent, au sein d'une association, accueille, sur un mode inconditionnel, le sans-papier qui, la plupart du temps, en tout cas s'il a été un peu aidé, se présente comme demandeur d'asile, car c'est plus aisé. Il est alors, grâce à cette association, mis en relation à la fois avec des lieux qui pourront lui offrir concrètement cet asile, un foyer, et mis en relation souvent avec un lieu juridique, un avocat. Les places dans les lieux d'asile sont insuffisantes et ce sont souvent des campements médiocres qui aujourd'hui se multiplient. Mais si le sans-papier est débouté du droit d'asile, ce qui aujourd'hui concerne 80% des demandeurs d'asile, il perd son adresse administrées par la dite association. France Terre d'Asile, par exemple, fournit des adresses pour que les demandeurs d'asile puissent avoir du courrier, sans qu'il soit nécessairement avec une domiciliation à part entière. Mais si on est débouté, on perd cette domiciliation. Le sans-papier dépend alors pleinement des liens qu'il s'est donnés, en travaillant, en parlant à d'autres ou dans des foyers, en consultant des juristes. Il est à la merci de protecteurs qui peuvent abuser de leur place. Les employeurs en particulier font renaître un droit des esclaves en obligeant à un travail non rémunéré. Les amis aussi font travailler au noir, car le sans-papier n'a pas de quoi vivre. Et lui fournir un petit boulot, c'est déjà jouir de faire le bien en l'exploitant. Il lui faut trouver un lieu pour dormir, qu'il va payer cher, sans pour autant obtenir de son logeur cette fameuse domiciliation dont il a besoin. Il faut donc que le réseau lui fournisse cette domiciliation. Et puis qu'il y ait finalement des gens capables de prendre du temps pour obtenir d'un employeur qu'il a déjà exploité de nombreux mois, voire de nombreuses années, qu'il lui fournisse des fiches de paye, voire une promesse d'embauche. Que le réseau soit convaincant à l'heure où la délocalisation sur place, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Terret, et délocalisation sur place protégée de fait par une complaisance des autorités publiques, soit contournée. Alors seulement, après plusieurs années de précarité, d'exploitation, de douleur, un dossier de régularisation pourra être présenté en préfecture. La logique des liens fait beaucoup plus aujourd'hui, évidemment, que la logique du regard, mais la logique du regard joue aussi, j'y reviendrai plus tard. Nous savons par ailleurs que dans ce moment spécifique que nous vivons, les réfugiés syriens avaient demandé à parler à un représentant de l'ONU pour faire valoir leur droit d'être humains. Ils ont rencontré le représentant français et n'ont rien obtenu. Ils se sont cousus les lèvres. Lorsque la loi d'août 1793, rédigée donc en septembre, est prise, l'embarras des révolutionnaires est extrême face à ce qui apparaît quand même comme un retournement des principes révolutionnaires. Ce qui fait que le fait de mettre un terme à ce qui avait été emblématique de la position révolutionnaire, à savoir le refus de ressembler sur ce plan de l'hospitalité au régime despotique, en refusant de penser le droit de l'hospitalité comme conditionnel, et à ce moment-là, effectivement, remis sur la table et discuté. Aussi, au moment de la déclaration de guerre à la Grande-Bretagne, le 1er février 1793, donc 6 mois avant cette loi, Barrère avait pu affirmer avec d'autres qu'il fallait conserver l'hospitalité ou la protection de nos lois, non seulement à ceux des Anglais et Bataves qui sont en ce moment sur le territoire de la République, mais encore à tous ceux qui voudraient venir y profiter des avantages d'un gouvernement libre. Que vous différerez, disait-il, citoyens, en cela de vos ennemis. Comme elle sera sentie, cette différence de la conduite d'un peuple libre avec celle d'un gouvernement despotique, lorsqu'on vous verra généreux et hospitalier au moment où vos ennemis seront envers vos concitoyens tyranniques et barbares. Cette question de l'hospitalité fraternelle est également au cœur des propositions de Saint-Just et de Robespierre dans le débat constitutionnel de 1793. Chez Saint-Just, le peuple français se déclare l'ami de tous les peuples. Il respectera religieusement les traités et les pavillons. Il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde. Il offre asile aux grands hommes et aux vertus malheureuses de tous les pays. Ces vaisseaux protégeront en mer les vaisseaux étrangers contre les tempêtes. Les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein. Le français établi en pays étranger, l'étranger établi en France, peuvent hériter et acquérir, mais ils ne peuvent point aliéner, ils ne peuvent pas revendre. Certes, l'étranger ne doit pas se comporter en conquérant, en transformant le pays étranger en place commerciale, aux dépens de l'hôte accueillant. Mais en dehors de cette limite, qui est une contrainte faite en fait aux pratiques bien connues à ce moment-là de conquête et de colonisation, l'étranger a droit à la plus grande sollicitude. Il s'agit, dans une certaine mesure, d'absolutiser la relation d'hospitalité devenue quasi inconditionnelle dans une conception où le genre humain, et c'est bien là la question centrale, où le genre humain constitue déjà une entité politique. Chez Robespierre, cela conduit à ses articles sur les relations de peuple à peuple et de citoyen à citoyen. Cela à l'échelle cosmopolitique, à l'échelle du genre humain. Article 1er. Les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens du même État. Celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre qui est le genre humain et contre le législateur de l'univers qui est la nature. Il soulignait alors, Robespierre, qu'on avait absolument oublié de consacrer les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes à toutes les nations et leur droit à une mutuelle assistance. Mutuelle assistance. Il affirmait qu'on paraissait avoir ignoré les bases de l'éternelle alliance des peuples contre les tyrans. On dirait, disait-il, que votre déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parquées sur un coin du globe et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour. Or, qu'est-ce qui vient mettre un terme à cette hospitalité inconditionnelle, quasi inconditionnelle, limitée seulement par le refus des conquêtes et du colonialisme, c'est-à-dire le refus des rapports de domination sous couvert d'hospitalité. Pour les révolutionnaires français, en 1793, l'hospitalité et l'amitié ont été données puis trahies. Quelles sont les traces de cette trahison ? Du point de vue des révolutionnaires, des complots, qui ne sont pas simplement des fantasmes, on sait aujourd'hui parfaitement qu'il y avait des complots. Et puis, la capacité à faire usage de propos contraires à ce que les révolutionnaires appellent la langue du droit, à trahir la langue du droit, à falsifier ce qui est en train de se dérouler dans l'histoire de l'Europe à ce moment, à faire en sorte que l'histoire révolutionnaire elle-même ne soit plus compréhensible. Voilà ce qui est reproché à un certain nombre d'étrangers de produire une propagande contre-révolutionnaire au cœur même de l'espace délibératif français. Il s'agit donc de limiter la pratique de l'hospitalité sans renoncer à l'horizon d'attente d'une sorte de société des nations alliées, car capable de reconnaître et d'agir les mêmes principes du droit naturel déclaré. C'est donc, paradoxalement, au nom du projet cosmopolitique qu'il faut suspendre l'hospitalité inconditionnelle. Ne pas perdre la guerre présente pour préparer cet avenir que l'on avait trop vite cru possible par la reconnaissance en l'humanité d'une humanité spontanément et sans histoire, en fait, fraternelle. Donc, en ayant trop cru que la fraternité universelle n'avait pas besoin d'être constituée politiquement et qu'elle pouvait simplement être observée et finalement régénérée par la seule puissance du discours. Dans le cadre qui est désormais celui pensable en 1793, l'hospitalité comme la liberté ne peuvent exister que si elles sont réciproques. Et donc c'est la question de la réciprocité de cette hospitalité qui est questionnée. Réciprocité qui suppose que l'enceinte sacrée de la pratique de l'hospitalité ne soit plus bafouée ni par les États, ni par les individus. Le risque, qui est alors celui des révolutionnaires, est qu'il y ait une impossible différenciation entre une nation révolutionnaire et les autres nations. Si l'hospitalité n'est plus inconditionnelle, ce que disait Barrère tout à l'heure, eh ben, ça n'a plus de sens. Et donc il s'agit de tenter d'exprimer constamment une distinction entre les bons étrangers qu'on va inclure, ou qu'on va continuer à inclure même sur un mode tout à fait asymétrique, et les espions soudoyés par les rois, pour reprendre l'expression des révolutionnaires. Garnier de Sainte, qui rapporte sur cette loi sur les étrangers, a besoin de réaffirmer la position révolutionnaire sur un mode malgré tout ambigu. Le peuple français, généreux dans sa politique et juste dans sa rigueur, dans la rigueur de ses mesures, ne confondra point l'homme égaré qui revient avec le conspirateur qui se masque, l'étranger paisible qui aime nos lois avec celui qui, intrigant et hypocrite, en parle avec respect pour les trahir avec succès. Et donc on voit bien que la question de la falsification de la parole, de la falsification des lieux du politique, de la possibilité, parce qu'on est oisif et qu'on a du temps et qu'on peut circuler dans ces lieux du politique d'une manière aisée, est au cœur de cette suspicion et de cette récusation en doute de l'hospitalité inconditionnelle. De fait, la condition pour être admis à l'hospitalité d'être avoué par deux citoyens patriotes déplace ce qu'on pourrait appeler une hospitalité publique et inconditionnelle, portée par la protection juridique, vers une hospitalité civique conditionnelle, portée par la vertu des patriotes. Chacun réaffirme le caractère hospitalier des citoyens patriotes qui seront capables de jouer leur rôle de membres d'un peuple libre et ainsi de devenir garants des droits de l'humanité à travers les bons étrangers considérés eux-mêmes comme patriotes. Cette conception des relations de personne à personne, ce que j'appelle donc l'hospitalité civique, était celle qui avait été prônée en fait aussi dès 1790. Seyès avait affirmé en particulier, je le cite, « Où il faut renoncer à croire au progrès de l'esprit humain, où il faut espérer qu'il deviendra très aisé à un étranger connu de se faire adopter dans une commune française. Cette adoption prouvera le domicile. Elle remplacera les lettres de naturalisation et vaudra mieux qu'elle. Une fois adopté dans une commune, on sera citoyen français. » Et si l'on veut établir domicile dans une autre cité, la nouvelle adoption ne sera qu'une simple formalité. C'est pourquoi, à mon sens, c'est en écho à cette conception de relation de personne à personne que le 26 Germinal en 2, Saint-Just referme la lutte des factions en espérant fonder des institutions civiles et non pas en produisant des nouvelles lois. Il ne formule pas un projet de loi républicaine. Non, il propose un projet d'institution civile et il affirme qu'il faut faire des citoyens républicains et libres, c'est-à-dire il faut que vous fassiez une cité, c'est-à-dire un peuple de citoyens qui soient amis, hospitaliers et frères. La problématique de cette cité est alors celle d'une cosmopolitique qui repose sur la qualité des citoyens et non sur la qualité des États. Or, ce passage d'une hospitalité publique qui repose en fait sur des lois à une hospitalité civique qui suppose une intériorisation des normes de l'humanité produit la nécessité d'inscrire dans la sensibilité de l'homme révolutionnaire la normativité nécessaire au maintien de la justice et de l'humanité. Ce qui fait que c'est en chacun des individus que repose la possibilité qu'il y ait de l'hospitalité et qu'il y ait de l'humanité. Il n'empêche que si Saint-Just invite ainsi un pari audacieux, il ne peut empêcher que cette hospitalité soit aussi en temps de suspicion, mais même en temps de non-suspicion, une toute-puissance pour faire vivre ou laisser mourir celui qui est dans une situation de détresse. 1.6.2. L'automne dernier, des réfugiés érythréens campaient dans une grande détresse devant la mairie du 18e arrondissement de Paris. Leur maigre campement ne les protégeait même pas de la pluie. Une bâche est arrivée. Puis des tentes ont été fournies par Médecins sans frontières. Les associations de quartiers, un quartier où il y a une vie associative très importante sur la question de défense des étrangers, en lien avec la paroisse qui fait face à la mairie au métro Jules Geoffrin, ont proposé d'organiser ce qu'on a appelé l'hospitalité des salles de bain. Chaque réfugié s'inscrivait sur une liste, et les prêteurs de salles de bain également, et rendez-vous était pris. Un associatif accompagnait le réfugié, et pendant que ce dernier se lavait, discutait avec l'hôte qui disposait de la salle de bain. Il y avait effectivement une logique de lien qui permettait de refonder de la dignité pour ces réfugiés comme pour ceux qui les recevaient et se désolaient de voir un tel dénuement. Puis la police est venue avec des cars et a emmené loin de Paris ces réfugiés. Ils sont revenus, comme vous savez, place de la République, où des hommes et des femmes ont apporté, fourni des matelas et des couvertures. Mais la police détruisait chaque matin le campement et il fallait constamment recommencer. Des manifestations ont été organisées, des pétitions signées, mais les manifestants sont devenus de moins en moins nombreux et étaient nassés à l'arrivée des cortèges comme de dangereux activistes incontrôlables. Des badauds regardaient, se lamentaient, et je me suis dit la dernière fois que quelque chose du nom français s'était perdu, que c'était certes très important, l'hospitalité civique inscrite au cœur de la sensibilité de chacun, mais que ça ne suffisait pas, que la cosmopolitique, telle que l'avait pensée peu de temps après la Révolution Emmanuel Kant, qui écrit donc juste après la séquence que je décris, comme pour en tirer les conclusions pratiques, et puis plus proche de nous dans ce banquet, le questionnement de Jean-Claude Milner, qui relie en ce moment la Révolution, sur les vertus de la limite face au fantasme de l'illimité, devait être repris dans un nouvel exercice de la pensée. Et donc, pour ce troisième temps, j'aimerais effectivement m'attaquer à la question de ce qui fait lien ou ce qui peut faire lien entre Français et étrangers, entre limite et illimité. Ce qui a fait lien entre étrangers et naturels dans la France révolutionnaire, c'est ce que Saint-Just appelle l'amour de la patrie, au sens d'un lieu de communauté des affections, par le partage des mêmes lois. C'est-à-dire, en fait, l'amour des lois, et plus précisément encore, l'amour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fameux thumos dont nous a parlé Françoise Vallon, mobilisé pour le logos juridique. Patriotisme constitutionnel, dirait Habermas. En tout cas, patriotisme qui fabrique un énoncé tout à fait étonnant dans cette séquence, qui est celui de patriotes étrangers. C'est pour la défendre, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de nombreux étrangers ont afflué en France et formé des bataillons révolutionnaires, fondé des sociétés fraternelles et politiques, sont devenus donc ces fameux patriotes étrangers. Ils ont discuté l'élaboration de la loi, envoyé des pétitions à l'Assemblée nationale. Ils ont participé très activement aux différentes fêtes de la Fédération. Certains s'étaient réfugiés en France quand ils étaient persécutés chez eux, au nom de leur idéal. D'autres étaient venus simplement parce qu'ils savaient que quelque chose se passait, qui avait partie liée avec ce qu'on peut appeler l'universel. Il faut bien entendre qu'au moment où ces patriotes étrangers prennent fait et cause pour la Révolution française, que la notion de nationalité n'existe pas encore. Elle ne sera nommée comme telle qu'en 1797. Elle n'existe pas donc au cœur de la Révolution française, la nationalité. Les hommes et les femmes utilisaient à ce moment-là une série d'expressions telles que le droit du citoyen, parfois les droits de citoyen français, parfois la qualité ou encore le titre de français, le titre de citoyen. Or, ce mot de citoyen ou ce nom français à ce moment-là, comme titre, effaçait de fait les distinctions entre l'appartenance légale, on dirait juridique, à la communauté nationale,
l'engagement patriotique, qui est l'amour des lois, l'amour de la déclaration des droits, et l'exercice des droits politiques en tant qu'on est membre du souverain en acte, en train d'agir cette révolution, avant même qu'il y ait une véritable constitution. Devenir citoyen français, ce n'était donc pas devenir naturel, pour reprendre les expressions de l'époque, mais qu'on a gardé sous l'idée de naturalisation. Ce n'est pas non plus disposer donc d'une nationalité, puisque le mot n'existe pas. Mais c'est être inclus de fait dans ce peuple souverain français en train de faire la révolution. Était alors effectivement citoyen celui qui voulait vivre sous les lois élaborées par l'Assemblée nationale constituante et qui adhérait aux principes qui doivent les régir, à savoir cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc celui qui adhérait à la déclaration des droits se sentait citoyen français, parce que finalement français, ça voulait dire celui qui aime la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui se présente à la fois comme française et d'emblée universelle. Au contraire, devenir contre-révolutionnaire, c'était se déclarer immédiatement hors le souverain peuple et, comme les nobles émigrés, se présenter comme étranger. Et donc, étranger n'avait pas à voir avec le lieu où l'on était né, mais avait à voir avec la position qu'on prenait politiquement à l'égard de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Trahir cette déclaration des droits, d'une manière ou d'une autre, trahir les serments à l'égard de la loi comme l'avait fait le roi, c'était devenir étranger. Et c'est pour ça que le roi est jugé en étranger. C'est parce qu'il a trahi ses serments faits à la loi et à la déclaration des droits. Et donc c'est bien en trahissant les principes inscrits dans cette déclaration qu'on devenait étranger. La citoyenneté était alors vécue comme une sorte de droit naturel lié à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pourquoi il n'était pas nécessaire d'attendre que la loi constitutionnelle soit rédigée pour se déclarer citoyen, se penser comme tel et agir comme tel. Ce qui est vrai à la fois, bien sûr, des étrangers, mais aussi des femmes. Et la manière dont les choses se déroulent pour les étrangers comme pour les femmes est assez analogue. Elles sont d'abord engagées comme les étrangers, puis ensuite déclarées passives ou déclarées persona non grata pour pouvoir prendre des décisions. Donc finalement, qu'on soit déclaré citoyen passif parce que pauvre, suffrage censitaire, femme ou étranger, c'est en fait la citoyenneté en acte qui avait d'abord fondé la place de chacun dans cette cité révolutionnaire. Ce fut consacré par l'article 4 de l'état de citoyen dans la Constitution de 1793. Article 4 donc, présenté par Hérault de Séchelles, 11 juin 1793. Tout homme né en France, âgé de 21 ans accompli. Tout étranger âgé pareillement de 21 ans accompli, qui depuis une année vit de son travail dans la République. Celui qui acquiert une propriété ou qui épouse une Française, ou qui adopte un enfant, ou qui nourrit un vieillard et réside en France depuis un an. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Comment expliquer, finalement, que la bataille soit perdue ? Est-ce que la manière dont on a exclu, y compris avec ces certificats d'hospitalité plus que complexes, les étrangers, doit être simplement liée au fait qu'on est en guerre ? Est-ce que ce n'est pas un peu court et un peu simple comme explication ? Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et que c'est là où se pose la question de la cosmopolitique. Car au moment même de définir juridiquement la nation, certains la veulent ouverte et illimitée, mais pensent une universalité du genre humain sur le mode de la conquête. Et puis il y en a d'autres qui la déclarent limitée. Et il faudra bien définir effectivement les critères de cette limite. Mais ils pensent l'universalité du genre humain sur le mode cosmopolitique, d'une égalité entre des peuples qui partagent les mêmes principes. On l'aura compris, la question de la conquête invalide le trait d'égalité et la valeur même de cette illimité. La clôture du national, pensée comme garantie de la cosmopolitique, pourrait encore être nommée comme l'impossibilité de réaliser, voire de penser, une quelconque suture temporelle entre les peuples qui connaissent le droit et ceux qui ne le connaissent pas encore. La réciprocité de la souveraineté de peuple à peuple suppose d'abord la reconquête par chaque peuple de cette souveraineté populaire fondée sur les droits de l'homme et du citoyen. En dehors de ces processus d'émancipation collective, seule est alors pensable la liberté d'individus qui, n'appartenant pas à un peuple libre, sont cependant adoptés par le peuple français sur le mode évoqué par Sieyès et dans la logique aussi du droit d'asile. C'est alors comme individus qu'ils s'émancipent de leur origine en choisissant de vivre dans un pays où le peuple est libre, ou déclaré tel. Ces individus donc peuvent être des réfugiés politiques ou non, mais cette pensée justement d'une pulsation de l'inclusion d'individus singuliers et subjectivement acquis s'enraye, devient difficile et récusée en doute au moment même où effectivement ce doute s'insinue dans la période de la guerre civile et étrangère de l'an 2, dans cette période de cette loi sur les étrangers. Ce qui conduit à affirmer qu'il n'est plus possible de penser qu'une année passée sur le territoire français suffise pour devenir français. Désormais, ce qui va être réclamé, ce sont 20 ans passés sur le territoire. Vous voyez, on est passé de 1 an à 20 ans. Ces 20 ans témoignent du déplacement d'une conception qui était une conception subjective et politique du nom français à une conception culturaliste du devenir français. Si la conversion subjective pouvait être fulgurante, adhérer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le dire avec clarté, l'acculturation, ce qu'on le nomme également intégration quand on n'ose plus parler d'assimilation, ne pouvait être que lente et incertaine. L'ambivalence à l'égard de l'étranger est donc une ambivalence sur la place de l'individu dans la définition que l'on donne de la cosmopolitique à venir comme garantie de l'émancipation et de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la paix perpétuelle. Soit l'individu doit être historiquement situé et à cet égard connaître ses droits et ceux qu'il partage avec son peuple et d'autres peuples. Et ce sont les limites de peuple qui permettent de fabriquer une réciprocité de la souveraineté qui prendra aussi la forme de réciprocité de l'hospitalité. Soit l'individu peut se détacher de ses origines et circuler entre différents peuples, surtout s'il fuit le despotisme et la misère. Mais pour autant, si la terre est alors la limite, devenir membre d'un peuple suppose bien de penser les conditions de l'inclusion en termes d'amour des mêmes lois. La pensée classificatoire, celle des administrations, n'a de sens que si elle est aussi, à ce moment-là, une pensée politique. Elle ne peut se superposer à une simple logique administrative sans y perdre toute légitimité. La cosmopolitique ne peut pas être une administration de troupeaux soumise à la puissance du commerce. Elle doit être une politique qui pense son partage et ses exclusions. Kant, dans son projet de paix perpétuelle, rédigé donc un an après la chute de Robespierre, définit une hospitalité très précisément limitée, soit à un simple droit de visite, soit à une demande d'inclusion dans un autre peuple. Deux principes, selon lui, justifient cette approche. Le premier est le droit qu'a l'étranger à son arrivée de ne pas être traité en ennemi dans le territoire d'autrui, tant qu'il n'offense personne. Le second est le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle, en tant qu'elle est sphérique, ils ne peuvent se disperser à l'infini. Il faut donc qu'ils se supportent les uns les autres, à côté des autres. Personne n'ayant originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre. C'est alors l'appartenance au genre humain qui qui légitime la demande de visite et celle de devenir membre d'une société sous certaines conditions toutefois. Ce droit cosmopolitique concernant ici les personnes et non les États produit effectivement ce droit de visite et la possibilité de changer de nom de peuple. Nationalité n'est toujours pas encore présente. Mais si on est en visite, c'est malgré tout en tant que membre d'un peuple. Et si l'on a droit de vouloir changer sa situation dans le monde et de circuler sur cette terre sphérique, on ne peut se penser comme simple électron libre. Cela veut dire qu'il faut faire lien avec une société et ses lois, faire lien avec des concitoyens, et donc être bien admis à l'hospitalité par communauté des affections, cette communauté des affections comportant également la question universelle des droits humains. Mais c'est en tant qu'on reconnaît ces droits humains dans un lieu précis avec d'autres citoyens qu'il y a la possibilité de faire communauté des affections. Cette communauté est donc un tout limité. Elle n'a pas, à proprement parler, besoin de territoire pour exister, mais bien de loi. Aujourd'hui, pour retrouver l'hospitalité faite à chaque homme en chacun des peuples qu'il veut visiter ou au sein desquels il veut trouver sa place, il faudrait reconnaître qu'il faut aussi retrouver une certaine conception classique des droits de l'homme et du citoyen. Et là, je m'arrêterai sur les propositions, pour les discuter ou pour les faire miennes, de Jean-Claude Milner, qui affirme depuis un certain temps, pas simplement avec le livre qui est annoncé, mais avec le livre qui avait été écrit en 2003 sur les penchants criminels de l'Europe démocratique, qu'il existe aujourd'hui deux doctrines des droits de l'homme. Les droits de l'homme classiques, ceux nés de 89, et nés de ce qu'il appelle le logico-politique, c'est-à-dire en fait la logique aristotélicienne, et l'articulation indissociable de l'historique et du politique. Ils immatérialisent, selon lui, une figure de limite. Je le cite. « Ils ne fonctionnent que par une évidence sensible, la plus simple et la plus bête possible, celle des corps qui ne réclament aucune interprétation. Un corps sans, s'il est libre ou pas, dans ses mouvements, dans son expression parlée, dans ses opinions, seraient-elles les plus niaises et les plus conformistes ?» Je voudrais juste indiquer que c'est Yes, dans l'exposition raisonnée des droits de l'homme, quand il défend la question de la résistance à l'oppression, dit exactement la même chose. Chacun sent dans son corps s'il est opprimé ou non, et il revient à chacun de résister à l'oppression. Je continue maintenant avec Jean-Claude Milner. Une âme, en revanche, ne peut jamais assurer qu'elle soit libre. Elle ne peut pas même assurer qu'elle désire l'être. Or, c'est à l'âme que se réfère la nouvelle doctrine des droits de l'homme qui s'est entièrement substituée à l'ancienne. Doctrine herméneutique par laquelle les droits de l'homme sont devenus complexes, inextricables et équivoques, ce qu'on a appelé dans la séance d'aujourd'hui le droit de l'homisme, qui en fait défend une certaine politique qui n'est malheureusement pas la cosmopolitique. Il conclut « Du nul n'est censé ignorer la loi du logico-politique, on est passé au nul n'est censé connaître ses droits de la société illimitée. » Et c'est pourquoi, à mon sens, il y a aujourd'hui quelque chose de perdu à ce qu'on appelait l'honneur de porter le titre de citoyen français. Qu'il y a encore moins d'honneur à porter le titre de citoyen européen en ce moment. Et défendre l'honneur du nom français, c'était en effet affirmer que certaines choses n'étaient pas admissibles sur le plan politique et des droits de l'homme quand on prétendait être français. Que si ces choses se présentaient, on y résisterait. Le nom français se confondait alors avec une manière d'être au monde dans une tenue révolutionnaire, républicaine. Et cette tenue républicaine, c'était avant tout le maintien constant de l'égalité devant la loi, la résistance à l'oppression face à ceux qui veulent dominer ou conquérir. Enfin, la capacité à maintenir la liberté comme non-domination, c'est-à-dire la réciprocité de la liberté qui seule fonde l'égalité entre les êtres humains. Incise 3, et dans cette incise, je citerai pour poursuivre et en mode de dialogue un passage de la revue Passage où Jean-Claude Milner toujours s'entretenait en 2004. Admettons qu'on dise que la France, même réduite à l'hexagone, même en 1946, n'était pas Judenrein. Il faut aussi se demander pourquoi elle ne l'a pas été. Qu'est-ce qui fait que la France n'a pas été comme la Hollande ? Et il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu un mouvement de résistance significatif, avec des cercles plus ou moins éloignés, des gens qui étaient dans les réseaux au sens propre, des gens qui étaient proches des réseaux, sans en être. Il y a eu des protections qui se sont mises en place pour des raisons diverses. Mais disons qu'à un moment donné, et de façon plus active en France qu'ailleurs, le signifiant national a fonctionné. Directement ou indirectement, il y a des gens qui se sont dit et qui ont dit « ça ne peut pas se passer comme ça, des Français ne peuvent pas laisser faire ça ». Je voudrais maintenant vous lire les attendus d'un appel à manifester le 6 août 2016. Depuis la fameuse violente nuit du dimanche 31 juillet 2016, nuit particulièrement violente, chaque jour, vers 13 heures, les quarts des forces de l'ordre déboulent avenue de Flandre, ou Jaurès, pour expulser, évacuer, emmener, n'ayant plus peur des mots, rafler à coups de matraque et de gaz lacrymogène, femmes, enfants, mineurs et hommes, des migrants dans des bus, direction le commissariat pour une prise d'identité et une distribution d'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Les bénévoles sont tenus à l'écart par des cordons de sécurité et menacés de matraque ou gaz à leur tour s'ils franchissent la barrière de sécurité. Le 4 août 2016, les gaz ont particulièrement été utilisés et les hommes à terre, pleurant et ne voulant ou ne pouvant marcher, ont été portés par plusieurs CRS jusqu'au bus, apprêtés et remplis à déborder d'une bonne centaine de personnes. Une bénévole en rage explique que les policiers sur place se félicitaient de l'efficacité des gazeuses. Dimanche, un homme a même été tasé dans la nuit. Autre nouveauté depuis hier, au moins 5 personnes ont été placées en CRA, centre de rétention administrative, suite à la rafle, 4 Afghans et un Somalien. Vers la fin de l'expulsion, une bénévole voit au sol un homme qui ne bouge pas, entouré d'agents de l'entretien et qui ne peuvent nettoyer la zone. Tandis qu'elle essaye de s'approcher pour lui venir en aide, un policier l'évacue. Cet homme, un Somalien d'une trentaine d'années, porte au poignet un bracelet de l'hôpital. Il ne bouge plus, les pompiers sont appelés. On dirait qu'ils essayent de faire en sorte que je n'existe pas. Si on n'avait pas envie de venir en France, on ne serait pas venu, on serait parti ailleurs. Mais si on est venu, c'est qu'on a une raison d'être là. Essayer de nous faire disparaître, ça ne sert à rien, confie un migrant soudanais après la rafle. Je voudrais maintenant conclure, parce que c'est l'heure, et parce qu'il me semble que c'est important, à la suite de tout ça, de conclure. Le ruban tricolore qui m'avait alarmé, imaginé en août 1793, partage avec l'étoile jaune un désir récurrent de pouvoir discriminer du seul regard. Il partage cela, même si l'exclusion révolutionnaire repose paradoxalement sur un désir de gagner la partie cosmopolitique. Il y a donc bien quelque chose qui peut se superposer, mais qu'il ne faut pas confondre. Ce qui se superpose, c'est bien cette logique du regard discriminant. Ce n'est pas la logique politique qui préside à l'imaginaire de ce regard discriminant. Face à l'Europe coalisée, il s'agit d'affirmer que l'hospitalité découle et ne peut découler que d'alliances interpeuples, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un interdémos, et des principes partagés, et non d'une inconditionnalité à l'égard de tout individu qui circule. L'aliénation des biens nationaux n'est pas envisageable. On n'aurait pas pu vendre à l'encan le Pirée en Grèce. On n'aurait pas pu vendre des hôtels particuliers à Paris, ni même un club de foot. Kant pense possible de conjoindre cette alliance de peuple à peuple et la circulation d'individus en visite, l'arrivée d'individus qui demanderaient l'inclusion dans un nouveau peuple. Le corps de chacun, les principes et lois de chaque peuple qui constituent son enveloppe symbolique fondatrice, la terre comme espace sphérique à habiter, sont autant de limites qui fonde la réalité logico-politique de l'hospitalité conséquente. Une telle hospitalité ne peut reposer que sur les droits de l'homme et du citoyen comme principes partagés, parmi lesquels la liberté de conscience. La garantie de ces droits ne peut reposer que sur la vertu, c'est-à-dire un nouveau patriotisme pour ces principes partagés à défendre. Ce patriotisme peut à la fois être situé dans sa réalisation et universel dans ses principes. Ce qui se joue, ce sont en fait différentes conceptions de la cosmopolitique ou de l'universel. Soit l'humanité est toujours déjà là, la famille du genre humain est déjà politique, ce qu'avaient rêvé les révolutionnaires dans l'inconditionnalité de l'hospitalité publique. Mais ce qui avait aussi conduit à oublier qu'il y avait des rapports de force de pays à pays. Soit l'humanité est à fabriquer dans ce rapport de force par agrégat de conquête en conquête. Mais l'on sait que les empires ou l'empire, le despotisme commercial, n'a pas besoin, voire redoute, les peuples souverains. Ou encore, troisième possibilité, l'humanité est bien à réinstituer historiquement, par retrouvailles réciproques de principes de justice qui la fondaient, comme humanité humaine, à retrouver de peuple à peuple et de personne à personne. Pour faire lien, il faut donc retrouver le nom d'homme et le nom de citoyen français ou d'autres nationalités. Pour faire lien avec les autres, il faut que les uns et les autres connaissent à nouveau leurs droits et qu'ils soient effectivement des droits garantis. Cela peut paraître simple, mais ce n'est vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui. Merci.